Radio Capi.
Notre grande édition dominicale vespérale avec Pascal Massilica.
Les titres de l'actualité, le coordonnateur humanitaire en RDC appelle à une mobilisation générale pour assister des nombreux déplacés en souffrance dans l'est de la RDC. Appel lancé ce dimanche par Bruno Le Marquis après avoir visité les déplacés de guerre des Lushagala près de Goma après l'étape d'hier de Calais. Nord Kivu encore, 75 sur les 117 sites de déplacés répartis dans les territoires de Nyiragongo manquent d'eau potable depuis 2 semaines. Les détails dans ce journal. Notre invitée, c'est la chef de division du genre famille et enfants du Sud Kivu, Jacqueline Ngengele. Salue les femmes à voter, appelle les femmes à voter pour d'autres aux différents postes de prise de décision lors des prochaines élections, ce qui les rendra ainsi capables de réussir là où les hommes ont échoué selon elle. Madame, Messieurs, bonsoir. Le coordonnateur humanitaire en RDC appelle à une mobilisation générale pour assister au plus vite les nombreux déplacés dans l'est de la RDC. Bruno Le Marquis affirme que pour ce mois de juillet, par exemple, la réponse humanitaire n'est financée qu'à hauteur de 30%. Il a dit ce dimanche à Goma après avoir visité les sites des déplacés de guerre des Lushagala et les sinistrés de la catastrophe naturelle de Calais, c'était hier. Un reportage de Rosalie Zawadi.
Au Nord Kivu, l'écart de la population est actuellement déplacé. Dans la province voisine de l'Ituri, 35% de la population vit en déplacement. Toutes ces personnes ont des besoins urgents alors que l'enveloppe disponible est insuffisante, déplore le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire, Bruno Le Marquis.
La réponse humanitaire en RDC est financée au mois de juillet à 30%. On parle vraiment de sommes tellement importantes. Donc on remercie tous les bailleurs pour toutes les sommes très importantes qu'ils ont déjà dégagées. Mais ça ne représente que 30% des besoins de la communauté humanitaire compte tenu de l'étendue des besoins. Encore une fois, je profite pour faire un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour essayer de toujours faire plus. Ensuite, comme on dit, l'assistance humanitaire n'est pas la réponse aux problèmes humanitaires. La réponse aux problèmes humanitaires, c'est vraiment les processus de paix. C'est la recherche de solutions pour que les gens puissent rentrer chez eux un jour et se réinstaller chez eux. Mais en attendant, tant que ça, ce n'est pas une réalité, l'aide humanitaire est vraiment essentielle pour que les gens, comme ici à Bushagala, 67 000 personnes qui sont à peu près entièrement dépendantes de cette assistance d'urgence.
Les déplacés de Lushagala aussi demandent au gouvernement de trouver les moyens de régler au plus vite la situation sécuritaire chez eux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Avant l'étape de la ville de Goma au Nord Kivu, Bruno Le Marquis a séjourné à Calais hier où près de 200 enfants sont actuellement en situation difficile après cette catastrophe naturelle du mois de mai dernier. C'est l'organisation Action Chrétienne pour l'aide et le développement qui accompagne ces enfants à travers des espaces qui se trouvent à Bouchouchou et à Nyamukubi avec l'appui de l'UNICEF. Des précisions avec le chargé de la protection de cette organisation. Bienvenue Tadjingé au micro de Rosalie Zawadi.
En fait, l'espace Amis d'enfants, c'est depuis le 6 mai. Dans les deux zones de Bouchouchou et Nyamukubi, nous en avons 3. Et au total, nous accueillons 1275 en moyenne. Il y a des enfants de la communauté qui viennent jouer ici parce qu'on n'a pas de discrimination. Mais au total, nous pouvons compter actuellement 1001 orphelins et enfants vulnérables, 102 enfants aînés et 203 enfants séparés. Donc je mets des enfants non accompagnés. Après chaque séance de prise en charge psychologique, des jeux, tout ça, il y a un repas qu'on leur donne. Nous faisons aussi un encadrement en termes de ces enfants qui sont non accompagnés. Nous cherchons leur famille et nous essayons de les réunifier. Et actuellement, la réunification monte déjà jusqu'à 193 enfants. Ils ont déjà retrouvé leur famille. D'autres continuent à rester dans des familles d'accueil transitoires et familles d'accueil spontanées en attendant que nous retrouvions leur famille.
Notez que sur place à Calais, Bruno Le Marquis a salué le soutien accordé aux enfants affectés par la dernière catastrophe naturelle qui a coûté la vie à près de 500 personnes et des milliers de disparus. Nord Kivu encore, 75 sur les 117 sites de déplacés repartis dans les territoires de Nyiragongo manquent d'eau potable depuis deux semaines. Le président des déplacés appelle le gouvernement central et les différents ONG à assister plus de 5000 ménages qui vivent difficilement dans les écoles et d'autres dans les églises sans eau potable ni de toilettes. Conséquence, il y a déjà des cas de diarrhée qui sont signalés. Explication de Bernardine Diambou.
D'après les présidents des déplacés de Nyiragongo, les ONG telles que Merci Corps, Avides, Ime Grand Lac et MSF approvisionnaient ces sites en eau potable. Depuis deux semaines, ces organisations ont suspendu leurs interventions dans le cadre de roches par manque de financement, a indiqué notre source. Du coup, on observe déjà des cas de diarrhée. Moussekou Radeo craint le pire si rien n'est fait. Il tire ainsi la sonnette d'alarme et demande au gouvernement congolais de restaurer la paix dans la zone afin de leur permettre de rentrer dans leur milieu d'origine.
Nous avons déjà eu trois cas de décès. Nous avons aussi des cas d'accident suite à traverse de la route en recherche de l'eau potable. C'est ça, nous vous supplions de faire l'intervention auprès des déplacés. Pour des déplacés risquent de mourir suite au manque d'eau. Mais le plus grand souci que nous avons, c'est de restaurer la paix dans nos villages que nous avions quittés pour qu'on puisse y rentrer.
Notez qu'actuellement, c'est l'ONG NRC a installé quelques tanks d'eau de fortune dans trois sites. C'est notamment dans les sites de 8e Sepak à Munigi, Tanabo, Rombo, Mama Fifi et Aniakabanda, toujours selon notre source. Mais cela ne résout pas les problèmes, a-t-il affirmé. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Revenons maintenant ici à Kinshasa où l'Association nationale des victimes du Congo invite les nouveaux animateurs du Fonds national de réparation des victimes à œuvrer pour l'indemnisation des victimes des conflits armés en RDC. Comme vous le savez, une ordonnance présidentielle vient de nommer les animateurs du dit fonds. Le président de cette association parlait d'une réponse à la longue lutte menée par son association en faveur des victimes. Mirand Moulumba exprime sa satisfaction au micro de Jeff Ngoy.
Cette ordonnance qui rentre logiquement dans le cadre de mécanismes de la justice transitionnelle, notamment les volets liés à la réparation, je crois que c'est au nommé et au promis de pouvoir capitaliser cette ordonnance, étant donné que s'ils doivent devoir jouer l'assiette au beurre, ils seront beaucoup plus exposés à des sanctions éventuelles, parce que cette ordonnance est le fruit des immenses sacrifices, de plusieurs lobbying menés par toutes les victimes de la République. Je crois qu'il y a possibilité que les nommés puissent gagner encore la confiance non seulement du président de la République, mais aussi de toutes les victimes de provinces touchées par les conflits armés. Donc je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important, ce que nous attendons tous, pourvu que dans un avenir proche, que chacun qui avait subi un préjudice soit indemnisé au prorata du préjudice qu'il aurait subi.
Et puis les 27 kidnappeurs, dont 4 policiers arrêtés récemment dans la capitale congolaise, ont été condamnés vendredi soir par le tribunal de grande instance de la Gombe après jugement en procédure de flagrance. Nombreux d'entre eux ont écopé de la peine de mort, d'autres de 10 ans de servitude pénale principale et d'autres encore de 2 à 5 ans de prison ferme selon le degré de l'infraction commise. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Ils doivent payer des dommages et intérêts de l'ordre de 5 millions de francs congolais. Les condamnés à la peine capitale devront quant à eux payer 20 000 dollars américains. En réaction, le président de la dynamique des luttes contre le trafic humain et la traite des personnes demande aux autorités du pays de veiller à ce que chaque condamné purge sa peine. Dieu merci, Kitambo s'est confié à Noël Aluzitu Kabambi.
Après les véridiques prononcés par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa, à Gombe, condamnant 4 policiers à la peine de mort ainsi que d'autres civils. La DCTH demande aux autorités chargées de l'exécution du jugement de veiller à ce que chaque condamné purge sa peine définitive. La DCTH demande vivement au Premier ministre Sama Lokonde d'instruire le ministre de la Justice de veiller à ce que les kidnappés condamnés purgent leur peine dans une prison située loin de la ville de Kinshasa, soit Boulouo, soit Angenga. La DCTH exhorte la population kinoise de ne pas paniquer devant cette situation.
Partons maintenant pour la province de la Tchopo où l'inspecteur général des FARDC est arrivé ce dimanche à Kisangani. Le général de corps d'armée Amissi Kumba est en mission d'inspection dans la troisième zone de défense pour voir comment maîtriser les effectifs en vue de la réorganisation des FARDC. Retournons ici à Kinshasa où l'opposant Franck Diongo a été transféré hier soir de l'ex-Démia par la prison militaire de Ndolo. Selon ses avocats, l'auditorat général des FARDC reproche au président du mouvement lumumbiste progressiste le port illégal d'armes et la bagarre survenue il y a quelques semaines entre le groupe dit la force du progrès à celui des Mongo. Ses avocats plaident pour la tenue d'un procès équitable. Allons maintenant au Maniema où l'office de route vient de réhabiliter certaines routes grâce au financement du gouvernement central via le FONER. Hier samedi, une délégation s'est rendue sur l'axe Kindu-Kasongo-Kindu-Kalima. C'est ce que nous explique à Kindu Florence Kizalunga.
Sur l'axe Kindu-Kasongo, par exemple, l'office des routes a travaillé du point kilométrique 0 PK0 PK40. Les travaux ont consisté en la suppression de bourbiers pour rendre la route plus praticable. La population s'est réjouie de ces travaux, car sur cette distance, avant, il fallait passer toute une journée pour atteindre Kindu et payer plus de 50 000 francs pour voyager par moto. Témoignage de Yabango Bin Takaiche, habitant de Lungombe.
Avant l'aménagement de l'office des routes, la route était enclavée. Jusqu'à présent, on est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on a déjà arrangé la route. Disons merci à cause des travaux que l'office de route a déjà travaillé ici chez nous.
Même les motocyclistes confirment maintenant la praticabilité de ces tronçons routiers. C'est le Manu Marie Majesté.
Nous les taximens, nous disons merci à l'office de route pour ces travaux. Avant ces travaux, on pouvait faire toute une journée pour arriver à Kindu. Mais maintenant, on roule aisément. Nous disons merci.
Le chef de brigade de Kasongo, Juma Anga Anga, félicite la population pour sa collaboration et promet de faire des petites retouches aux endroits non reprofilés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Faisons un détour par le Kasaï oriental où la province va avoir une nouvelle cité moderne construite dénommée Ditekemena. Le gouvernement provincial va y construire des bâtiments, une zone administrative, des résidences privées et des espaces commerciaux. Dans le but de concrétiser cette initiative de développement, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea, a posé la première pierre. Vanessa Kongolo.
La cité d'Itekemena sera érigée au village Benantumba, situé à environ 2 km à l'ouest de la ville de Mbujimayi, sur un espace de 1300 hectares, réparti en 8 zones, notamment la zone administrative, qui va abriter le gouvernorat des provinces, l'assemblée provinciale, l'hôtel du gouvernement et bien d'autres services de l'État. D'après les ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics, la cité d'Itekemena comprendra également de bâtiments modernes, une zone administrative, de résidences privées et des espaces commerciaux pouvant favoriser la création d'emplois et le développement économique local. Un projet a été initié par le gouvernement provincial dans le but d'étendre la ville de Mbujimayi. Les travaux de marquage, de terrassement et de visualisation de la route de cette cité se font grâce aux ressources locales, tandis que la construction de bâtiments administratifs seront financés par la province dans le cadre de son investissement sur les crédits transférés aux provinces contenus dans le protocole d'accord signé entre les Kasaï oriental et les bureaux centrales de coordination BESECO.
Actualité internationale.
Ouverture ce dimanche à Bissau d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui sera largement consacré aux transitions en cours ces jours-ci au Mali, au Burkina Faso et en Guinée où les dirigeants sont issus des coups d'état militaires qui ont promis par ailleurs d'organiser des élections. La cérémonie d'ouverture de ce sommet ce matin s'est déroulée en présence d'une dizaine de chefs d'état. Le président sortant de l'organisation, Oumarou Sissoko Embalo, candidat à sa propre élection, a appelé à plus de solidarité et à l'unité dans l'espace de la CEDEAO. Et puis au Gabon, Alexandre Barrault-Chambrier, un des poids lourds de l'opposition, a été choisi cet après-midi pour représenter son parti politique à l'élection qui aura lieu le 26 août prochain. Il a été désigné à l'issue du congrès extraordinaire de son parti politique. Cet économiste de formation a été plusieurs fois ministre sous le président Omar Bongo, puis durant durant le mandat d'Ali Bongo, où il avait obtenu le protocole, le portefeuille du, pétrole. Il est passé dans l'opposition depuis 2016.
L'invité.
Notre invitée, c'est la chef des divisions du genre famille et enfants du Sud Kivu, Jacqueline Nguengele, stimule les femmes à voter pour d'autres aux différents postes de décision lors des prochaines élections à RDC, ce qui les rendra ainsi capables de réussir là où les hommes ont échoué selon elle. Elle s'entretient avec Jean Kassami.
Ramon Sarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de l'université d'Oxford et vous êtes auteur du livre intitulé « Inventing an African Alphabet ». Alors dites-nous, qu'est-ce que vous a poussé à publier ce livre ?
Oui, d'accord, merci beaucoup. La raison principale par laquelle j'écris le livre, d'abord parce que j'avais tissé une amitié avec l'inventaire de l'alphabet, Mandombe, et le même jour que je l'ai connu, en octobre 2009, j'ai eu une espèce, je ne dirais pas révélation, ça serait trop dire, mais j'ai eu une espèce de sentiment qu'il fallait écrire ça. Alors je lui ai dit, monsieur, il faut que j'écris un livre sur vous. Ça m'a sorti comme ça du cœur. Il m'a dit, bon, on va travailler ensemble. Alors on a commencé à travailler. Parce que moi, j'avais senti, d'après une première causerie avec lui, que ce qu'il avait à nous dire, c'était très important. Et une année après, j'avais déjà fait plus de 50 heures d'enregistrement avec lui. Après, j'ai transcrit pour écrire le livre. Il m'expliquait sa vie, il m'expliquait tous ses miracles, il m'expliquait tous ses travaux. Et moi, j'ai senti qu'il y avait des choses qui étaient importantes de témoigner, qui se sont vraiment passées, que ça allait être important aussi pour le public en général, surtout pour ceux qui font ce qu'on appelle le African Studies, en Angleterre, aux États-Unis, les études africaines, mais aussi pour les anthropologues, pour les linguistes, pour ceux qui étudient la religion, et aussi pour ceux qui étudient comment l'histoire coloniale est aujourd'hui vécue et réinterprétée à partir d'aujourd'hui.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce livre ?
Oui, les idées principales du livre. Il met en valeur un patrimoine congolais encore méconnu. Il nous donne la biographie d'un créateur génial congolais trop négligé. Il montre la valeur de la persévérance quand il y a un rêve, donnant un exemple à la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qu'il disait. Je veux que vous écriviez un livre pour que ce soit un exemple. Il parcourt l'histoire du Congo colonial et indépendant de 1921 à 2013, quand il meurt. Il montre l'importance du kimbanguisme dans le monde contemporain. Il montre l'importance pour un peuple d'avoir leur propre alphabet.
Pourquoi avoir choisi ce jour pour le vernissage de ce livre ?
Parce que ça s'avère que moi, je commence maintenant une recherche au Congo, une nouvelle recherche en Angola sur l'histoire de Mbanza Congo, la capitale ancienne du Royaume du Congo, qui est maintenant patrimoine de l'humanité, comme j'étais près du Congo. J'avais proposé ici à l'Académie des Beaux-Arts de faire le vernissage en ce moment. Parce qu'avant, j'étais trop pris avec les cours universitaires à Oxford. Et après septembre, je serai encore pris à nouveau. Donc maintenant, c'était un moment idéal.
Avez-vous rencontré des difficultés pendant la rédaction de ce livre ?
Si, beaucoup même. C'est pour ça que le livre apparaît en 2023, 10 ans après presque l'avoir fini. C'est que d'un côté, la mort de Wabela Dio m'a beaucoup traumatisé. Moi, je l'aimais beaucoup, on était de très bons amis. Et puis le chagrin, la peine de la famille, de la femme, ça me faisait pleurer chaque fois que je me mettais à écrire. Non, je disais non, c'est pas correct. Point de vue éthique, je suis en train de profiter maintenant de la mort de quelqu'un. Non, je peux pas. C'est madame Eugénie Dinkembi qui, quelques années après, elle m'a encouragé. Elle m'a dit, il faut que vous finissiez le livre sur mon mari. Mais avant ça, je voudrais aussi signaler des difficultés pendant la rédaction et pendant la recherche. Il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Alors moi, je venais ici au Congo, je partais voir quelqu'un, je disais, je amène des recherches sur Wabela Diopa et le Mandombe. Il me disait, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Ça n'a pas de valeur, vous perdez votre temps, faites des études sur la culture Congo, étudiez l'histoire du Royaume Congo, mais les Mandombe, ça c'est rien. Alors il y a eu beaucoup de résistance qui m'a, d'un côté m'a découragé, mais de l'autre côté, ils m'ont piqué. C'est-à-dire, d'un côté, je dis, non, je vais faire ce livre pour montrer aux gens qui sont sceptiques qu'il y a quelque chose. Mais même dans les maisons d'édition, ce livre, ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, la biographie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, la biographie d'un certain Wabela Diop. Pourquoi ça va intéresser le monde?
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.